Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Trois journalistes dans ce studio pour commenter trois sujets qui figurent incontestablement parmi les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Il s'agit des nouveaux affrontements entre Peul et Bambara, signalés ce week-end dans la région de Mopti, de la suite de l'affaire Rasbach avec la relaxe des 19 personnes jugées par le tribunal de la commune 4 de l'Issiri Bamako et du projet de loi électorale qui est censé remplacer la loi électorale de 2006. Les trois journalistes qui vont débattre de ces trois sujets sont Paul Ben, il est journaliste indépendant, Boubacar Paintao, il est l'indépendant, et Benjamin Sangala, qui est de Fraternité africaine, à la présentation de Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Sept morts et sept blessés, c'est le bilan des affrontements qui se sont déroulés ce week-end entre Bambara et Peul à Djoura dans le cercle de Ténékoum. En mai dernier, les affrontements entre les deux communautés avaient déjà fait plus d'une trentaine de morts. Pourtant, il y avait eu des rencontres qui ont même été sanctionnées par ce qu'on appelle une convention. Mais voilà, la violence est encore de retour dans la zone. Vous êtes surpris, Paul Ben?
Bonsoir aux auditeurs du studio Tamani. Je voudrais dire, je l'ai dit ici sur ce même plateau il y a quelques mois, les violences entre Peul et Bambara, c'est des violences qui sont séculaires. Sans une implication réelle des autorités, puisque ça se passe au Mali, je crois qu'on va assister de plus en plus à ces affrontements. Je ne suis pas surpris.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre par implication des autorités? On se rappelle que des ministres avaient fait des déplacements lors des affrontements du mois de mai.
Oui, dans le passé, ces affrontements auxquels on assistait toujours se passaient, c'était moins violent parce que ça se passait avec des gourdins, des bâtons, souvent des machettes. Aujourd'hui, les gens sont armés. Ils ont des armes. Ils sont formés en groupuscules, donc c'est pourquoi les affrontements sont de plus en plus violents. Je disais donc qu'il faut une implication solide du gouvernement pour d'abord désarmer ces gens. Parce que je l'ai dit à un cadre du ministère de la Réconciliation nationale, il ne sert à rien d'aller organiser des forats, de discuter autour de sujets qui sont plus anciens que ces ministères qui existent aujourd'hui, et de tourner le dos en croyant que on a fait quelque chose. Il faut suivre, il faut un suivi rigoureux. Il faut désarmer donc ces populations, les faire asseoir, les faire comprendre qu'ils sont dans un pays de droit, dans un état de droit, et que celui qui reprend peut être confronté à la loi. C'est pourquoi je dis qu'il faut une implication réelle, véritable des autorités. Il ne faut pas tout juste échanger, faire asseoir les gens, signer des conventions comme on l'a fait, signer des documents et dire que bon, tout est beau. Donc il faut suivre, et souvent avec la rigueur.
Boubacar Paintao, c'est évident quand même que les autorités ne sont pas du tout indifférentes à ce qui se passe dans la zone de Ténékoum.
Bon, je joins ma voix à celle de Paul Ben pour remercier tous les auditeurs de Sijo Tamani. Mais au-delà de l'aspect, c'est-à-dire que de signer, c'est-à-dire que l'implication des autorités, mais ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que tout simplement, tous ces conflits prouvent qu'en réalité, les gens ne font pas justice, c'est-à-dire qu'ils ne font pas confiance à la justice. Parce que quand on sait que un conflit entre deux personnes, lorsqu'on va amener ça devant le juge, ça ne sera pas bien tranché. C'est-à-dire que de fil en aiguille, maintenant, des communautés vont s'organiser pour essayer de se défendre. Voilà tout le problème. Maintenant, les ministres, tous ceux qui vont s'impliquer, ils vont aller, arrêter, c'est pas bon, ceci, cela. Mais réellement, le problème, le nœud du problème, c'est que la population...
Vous voulez dire que les frustrations sont pour beaucoup dans ce genre
de
conflit?
Oui, mais évidemment. Parce que à chaque fois que vous vous plaignez, c'est-à-dire que la justice se penche du côté malheureusement de celui qui paye.
Depuis l'offrande.
Alors, Maintenant, nous allons donner la parole à Benjamin Sankala de Fraternité Africaine.
En fait, il faut être un peu... Bon, ce qui est triste quand même, Mopti enregistre le taux le plus élevé en termes de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Surtout, bon, paysans, Bambara, Peul, éleveurs. Maintenant, comme l'autre l'a dit, de plus en plus, l'autorité de l'État est de plus en plus bafouée. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autorité de l'État, les communautés se replient sur elles-mêmes, d'où qu'on appelle un peu le repli identitaire. Chacun essaie de se faire justice, chacun essaie de se défendre. Maintenant, pour qu'on arrive vraiment à finir avec ce genre de conflit, et qui fait tellement de victimes, il faut que l'État s'implique également par les sensibilisations. Et ces conflits se tournent autour d'un certain nombre de points, c'est-à-dire les pâturages entre éleveurs et tout, les champs et les délimitations des champs. Si on n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à ça, du fait que l'espace cultivable devient de plus en plus réduite, donc il faut trouver une solution vraiment à ces problèmes-là. Oui. Tant qu'on n'aura pas vraiment une solution à ces problèmes, et les conflits vont continuer et vraiment l'État aussi viendra toujours en retard.
Alors tout le monde comprend la nécessité de négocier, la nécessité de mener des pourparlers, mais les auteurs de ces actes, alors quel sort selon vous doit être réservé à ces auteurs-là?
Bon, ces auteurs, je crois qu'il faut rendre justice, c'est tout. Il faut que la justice prenne vraiment son droit. Que le coupable soit vraiment condamné à ce qu'il faut maintenant et que les autres s'en tiennent vraiment à la décision de justice.
Paul Ben. Moi, on doit se demander surtout où est la place de l'État dans ces zones-là. Où est la place de l'État? Où est le rôle que l'État joue? Ce n'est pas que chaque fois que les gens se coignent dessus, on dépêche un ministre ou son représentant sur place pour essayer de jouer aux pompiers. Il faut traiter les sujets en amont. Comme mes confrères l'ont dit, c'est des problèmes qui sont là de façon séculaire. Ça fait très longtemps depuis qu'on est à l'école, on entend que les Bambara et les Peuls se sont affrontés. Aujourd'hui, c'est de plus en plus violent, comme je l'ai dit tantôt, parce que les armes sont entrées en jeu. Et où est l'État? Il faut, je crois que toutes ces zones-là appartiennent à des régions, à des cercles, à des communes. Et il faut que l'État s'assume. Il faut que l'État montre qu'il est présent, de plus en plus présent. Sinon, je vous l'ai dit, hein, ça va dégénérer et ce ne sera pas seulement la région de Mopti. Peul et Bambara sont un peu partout au Mali. Éleveurs et agriculteurs sont un peu partout au Mali. Ça va dégénérer.
Bokar Pintao, qu'est-ce qu'il urge de faire aujourd'hui pour que ce genre de situation ne se reproduise?
Bon, ce qu'il urge de faire, c'est-à-dire que là, la solution, on va le donner certainement à court, moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les deux communautés, c'est-à-dire que les deux communautés, quelles qu'en soient, il faut les sensibiliser. Au-delà, il faut essayer de créer cette confiance-là à la justice. C'est-à-dire que les amener à comprendre que, c'est-à-dire qu'on est dans un état de droit, on ne se rend pas justice. Et le juge est là pour dire uniquement le droit. Donc une fois que ces populations sont dans cette prédisposition, je crois que ça va régler beaucoup, beaucoup de choses. Mais malheureusement, même ces conflits-là, vous allez voir que les ministres, on va dépêcher les ministres, on va dépêcher les représentants de l'État. Maintenant, on va constater le dégât. Après, on va dire que non, au nom du pardon et de la réconciliation, oublions tout ça. Ceux qui sont détenus, on va les libérer. Maintenant, et demain, on ne dira pas à la justice. Donc, je vais beaucoup insister sur la justice. Parce que c'est ça l'épineuse question. Hein.
Monsieur Sangala. Voilà.
Mais je crois qu'il faut aussi rappeler que Mopti, il y a les conflits, les jugements durs, il y a les vieilles justices de 1936 qui n'ont pas encore connu de dénouement. Et 36, il faut qu'on c'est après 60 ans, 70 ans. Vous voyez, chaque année, c'est les mêmes répétitions, c'est les mêmes rebondissements. Ouais. Donc, tant que vraiment on ne mettra pas la justice dans son rôle, et que les communautés n'ont pas confiance en la justice, on n'ira pas loin.
Et puis, je vais vous dire, dans ces zones, moi j'ai sillonné un peu ces zones, ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire les chefferies, les caddies, etc. Cette justice, elle a un grand rôle à jouer. Et
la justice conventionnelle normale que nous connaissons a un peu fait ombrage sur cette justice traditionnelle. Il faut la ramener. Nous avons aujourd'hui la comité justice, vérité et réconciliation qui a été mise en place. Elle doit essayer de s'impliquer dans ce genre de conflit pour essayer d'amener les gens à se comprendre, à savoir quel est leur droit et devoir afin que ces conflits cessent. Sur un autre plan, ou bien sur une toute autre échelle, M. Foma, vous êtes à Bamako ici, et vous voyez, c'est rare des quartiers où vous ne voyez pas de divagation d'animaux. C'est le même phénomène à une plus grande échelle qui se pose dans nos villages, dans les autres contrées. Vous voyez ici, c'est les peuls qui sont capables de laisser leurs animaux divaguer en ville. C'est les peuls qui sont capables de prendre vos animaux, vous Bambara, les garder chez eux et les laisser divaguer. C'est sur toute cette échelle qu'il faut commencer à combattre ce phénomène. Il faut essayer de trouver des solutions à ce phénomène. Sinon, un jour à Bamako, si les vendeurs de fruits se rebellent parce que les animaux ont causé des dégâts, ben on va se demander, oui, bon, comment est-ce que ça s'est passé, mais ça commence comme ça.
Alors, Bokar Panita, je le disais, certainement qu'il y aura des rencontres, mais il y a quelques jours de cela, nous avons eu en ligne le préfet de Tenenku. Alors, dans ce même studio, il nous a fait savoir que lors des récents des événements de mai dernier, les parents des victimes n'étaient pas concertés, ils n'étaient pas présents lors des rencontres. Il disait d'ailleurs qu'on sentait un désir de revanche. Alors, ça veut dire que s'il faut faire des rencontres, il faut qu'on tire les leçons de la fois dernière, non?
Mais évidemment, il faut tirer les leçons. C'est-à-dire que des fois passé, mais le problème, le nœud du problème, je vais encore le répéter, parce que tout simplement, c'est-à-dire que c'est les communautés, bon, un peu, je le dirais entre guillemets, ils sont laissés à elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on sent le désir souvent de se rendre justice, c'est-à-dire que aujourd'hui, bon, moi, après 2-3 mois de culture, maintenant, c'est-à-dire que les troupeaux sont venus, ils ont tout envahi. Maintenant, demain, je vais essayer de tout faire pour que cela n'arrive. Et généralement, c'est des cas où, si tu te plais, on te bat à ça. C'est-à-dire que c'est comme ça. Maintenant, bon, c'est-à-dire que l'autorité qui se déplace pour aller constater les dégâts, je dirais ainsi, bon, généralement, ils font que des coups de communication.
Hein. Voilà.
C'est des coups de communication, ils ne vont pas se mêler, c'est-à-dire qu'au problème de fond, ils vont juste régler ça de façon superficielle. Ils savent que après eux, c'est une bombe qu'ils ont préparée et ça va encore exploser. Parce que tout simplement, de retour au village, c'est-à-dire que, par exemple, si les peuls ont constaté, c'est-à-dire que 10 décès est un exemple, maintenant les Bambara vont se vanter. Voilà, vous avez vu la première fois ce qu'on vous a fait. Maintenant, ça va. C'est-à-dire que de fil en aiguille, on va. C'est-à-dire que la situation va se compliquer. Maintenant, les peuls aussi vont se préparer en conséquence. C'est-à-dire, comme on l'a dit une chose au Poulben, c'est-à-dire avant c'était avec des gourdins, mais maintenant c'est des armes à feu. Voilà. Maintenant, plus, c'est-à-dire que le conflit persiste, plus, c'est-à-dire que le clan qui se croit, c'est-à-dire que vaincu, va se préparer. Maintenant, il suffit d'un coup d'étincelle que ça explose encore, parce qu'ils veulent prendre leur revanche. Donc il y a tout ça. Maintenant, il faut la justice. Tant qu'il n'y a pas de justice, on ne fera que constater les dégâts et malheureusement des morts d'hommes.
Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Après les affrontements du week-end dernier à Djoura, dans la commune, dans le cercle de Tenenku, nous allons aborder à présent le second sujet de cette émission. Alors, ce sujet, c'est l'affaire Rasbach. Nous y revenons donc avec ce jugement rendu il y a quelques jours par le tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Les accusés étaient au nombre de 19, 18 ont été relaxés. Un seul a donc été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Votre commentaire, Paul Ben?
Service minimum. Service minimum, je l'ai dit lors d'un débat auquel j'ai participé ici par rapport à cette affaire. Je dis que le procureur qui a été un peu l'allumeur de cette mèche ou de cette bombe, ici est mal pris parce que de long en large sur toute la ligne, je crois qu'il a manqué de professionnalisme. Et les gens qui l'ont soutenu dans cette basse besogne, parce qu'il y en a, il a des chefs, il a des collaborateurs, ont tous fauté. Je crois que ce que j'ai regretté, et je le regrette toujours jusqu'à présent, c'est la mort. Et en plus de ça, les dégâts vraiment matériels qui s'en ont suivis. Et c'est triste parce que moi, j'ai vu les images et moi, je me demande pourquoi est-ce que cela est arrivé. Si on avait réfléchi de façon technique, très profondément, à ce sujet, je ne dis pas que le procureur n'a pas le droit de le faire, mais s'il avait bien réfléchi, soit il allait sursoir à s'auto-saisir, ou il allait le faire autrement. Et moi, je crois que on va dans les prochains jours assister à des relax de ce genre, à des communiqués de ce genre. Et c'est la famille du disparu et c'est le contribuable citoyen, contribuable malien qui va souffrir de sa poche, parce qu'il faudra payer, je crois, des documents très très chers pour la justice. Et justement, et les infrastructures, le matériel roulant qui a été brûlé, il faudra payer. C'est dommage.
Wakar Panitao, 18 relax, 18 personnes relaxées sur 19, c'est-à-dire qu'on s'en était pris quand même à des innocents.
Bon, je dirais tout ça pour ça. Parce que c'est malheureux, c'est que ça veut dire que dans le dossier est vide. Le dossier est vide parce que le procureur pour rejoindre un peu mon confrère Paul Ben, le procureur a essayé de jouer sur une corde. C'est-à-dire que aujourd'hui, quoi qu'on reproche à Rasbach, l'infraction a été commise par voie de presse. Maintenant, bon, c'est-à-dire que le procureur a essayé, parce que quand il mettait ça dans le compte d'un délit de presse, il aura certainement toute la presse derrière lui. Maintenant, il a essayé de requalifier. Mais bon, c'est-à-dire que la justice, c'est pas comme cela. C'est-à-dire que c'est pas une matière à dissertation où chacun peut commenter selon sa convenance. Le droit ne doit pas être comme cela. Le droit est clair. Mais bon, ce que je déplore, tout ça, Rasbach a été libéré. Les gens qui ont été pris disent que qu'ils sont complices. Le ministre a dit haut et fort que quelqu'un va payer, mais malheureusement, 18 ont été libérés. Maintenant, même la seule personne qui a été condamnée, mais c'est malheureux pour notre démocratie, parce qu'on ne peut pas soutenir, on peut pas condamner quelqu'un parce qu'il est parti soutenir quelqu'un. C'est-à-dire que ça, je ne comprends pas, parce que je ne sais pas. Et voilà, c'est tout simplement, le dossier est vide. On aurait pu éviter tout ça. Mais malheureusement, bon, c'est nous qui allons payer. Hein. C'est nous qui allons payer. La facture est très salée.
Benjamin Sangala, est-ce que vous pensez que personne ne va payer pour rien dans cette affaire, ni pour les violences, ni pour les balles tirées? Aucune responsabilité ne sera située?
Bon, finalement, c'est ce qu'on voit venir. Déjà qu'il y a eu 18 relax, le seul condamné, bon, si moi avec celle-ci, Rasbach aussi sera libéré. Je ne vois en tout cas personne qui va payer pour ça. C'est vrai, le ministre a dit que bon, quelqu'un va payer. Mais qui?
Mais l'État.
Et l'État. Nous, les contribuables, peut-être.
L'État qui a manqué de professionnalisme, c'est l'État qui va certainement payer. Parce que moi, je n'étais pas aux manifestations. J'ai eu les échos, j'ai vu les images. On n'a pas assez de professionnels pour pister une manifestation. Il y a eu des gens, vous savez, le jour de la manifestation, l'analyse que j'ai faite, il y avait déjà des frustrés, des déguerpissements. les actions que mène Amican actuellement à Bamako, il y avait des frustrés. 90% des gens qui manifestaient, c'était des frustrés du déguerpissement. Et ce sont eux qui ont profité pour essayer d'enlever un peu sur le courroux qu'ils avaient. Et ces gens-là, on ne les a pas pistés. On ne fait pas comme on le fait dans d'autres pays, c'est-à-dire parmi les manifestants, il y a des policiers qui se transforment en manifestants pour essayer de cibler les gens. Ça, on ne l'a pas fait. Et je crois que c'est dommage. Et c'est l'État qui va payer, certainement. Je ne vois pas quelqu'un d'autre.
Oui, l'État.
Sankala, oui.
L'État va payer, oui. Bon, c'est nous contribuables, toi, moi, l'autre.
Je l'ai dit.
Mais également, bon, par rapport à l'arrestation même de Rasbach, moi, je serais peut-être heureux, hein. Heureux si, peut-être, par ailleurs, on faisait la même chose au niveau, peut-être, de la musique malienne, les rappeurs, qui, à longueur de journée, également font la même chose. Peut-être, bon, pas parce que la même chose, mais qui, en termes de les dérapages, voilà.
Son arrestation vous donne l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures.
Deux poids, deux mesures. Et également, combien de gens, c'est tout, en termes, combien de gens, c'est les antennes, les prêcheurs autres, c'est insulte. Entre autres, on passe outre tout ça, et bon, on va s'en prendre peut-être à un Rashbat qui, peut-être, qui a juste peut-être besoin d'être recadré, et non, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà.
Bakar Panitao, il semble que l'affaire tire vers sa fin. Est-ce qu'on peut tirer un dernier enseignement de tout cela?
Mon dernier enseignement, c'est que on n'a pas, par exemple, la même population que dans les années 1980. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup évolué, les réseaux sociaux sont là. Mais on ne peut pas gérer un problème comme si... Voilà, donc on a affaire à une population de... Il y a plus de 20 ans ou 30 ans. Mm-hmm. Maintenant, ce qui est déplorable, c'est qu'à travers la manifestation de Gao qui a restreint des morts d'hommes, et cette manifestation où l'armée... Bon, les forces de l'ordre ont tiré sur la foule.
On accuse.
Maintenant, ce qui est malheureux, le cas de Gao, c'est qu'on a accusé les manifestants. Mais le jour de la manifestation pro Rashbach, après les coups de feu, je crois que le DG de la police a animé une conférence de presse pour dire qu'aucun policier n'avait une arme. Mais c'est déplorable. Il faut que nos responsables, c'est-à-dire, s'assument. Alors que dans toutes les images, dans la plupart des photos qu'on a prises, il y avait des policiers avec des armes.
Non, je crois qu'il avait précisé plutôt qu'il n'y avait pas de balles réelles, donc il n'y avait pas possible de tirer à balles réelles.
Mais non, ça c'est...
Il ne faut pas qu'ils prennent nos têtes pour des lanternes. Quoi,
on est arrivé à un moment où l'autorité, c'est-à-dire que doit s'assumer. Vraiment, on reconnaît qu'il y a eu des bavures, on va punir les responsables. Parce que on peut pas dire que il y a un mort d'homme, lui il sort, il dit que non, il y avait. C'est comme si il est en train de blanchir les policiers. Peut-être demain c'est pour aller nous dire que c'est les manifestants même qui ont tiré sur eux. Voilà. Maintenant, cette chose, un autre aspect que je voulais préciser, c'est-à-dire que l'intervention de mon confrère Paul Ben, vous savez qu'on ne peut pas faire la différence entre les pro-Rashbach et les Digarpi. Ouais. Parce que qui écoute Rashbach en majorité? Ce sont ces gens-là. Mm-hmm. Donc, faire une différence nette entre les soutiens, c'est-à-dire que de Rashbach et les Digarpi, je crois que à un moment donné, c'est la même chose. Hein.
Mm-hmm. Non, moi, je disais que... Voilà. Faire la différence...
Rapidement, Paul Ben, avant qu'on donne la parole.
Oui, je disais, c'est pas faire la différence entre les pro-Rasbaf ou... Il y a des pro-Rasbaf qui sont tapis dans l'ombre, hein, qui sont dans les bureaux, hein, des hommes en cravate. Je disais que, c'est-à-dire, pendant la manifestation, voir qui a, par exemple, incendier un véhicule, qui a jeté des pierres sur les édifices, qui a cassé, c'est ce que je disais. Je voulais aussi, par rapport à la bavure, à la dérive policière, M. Fomba, il y a plus d'une semaine, je circulais dans le quartier Hippodrome et j'ai vu une scène vraiment horrible. Des policiers du 3e arrondissement, parce qu'ils étaient dans un véhicule du 3e arrondissement, un véhicule de police du 3e arrondissement.
On va généraliser au
long. Non, on ne généralise pas. Non, c'est pas généralisé parce que c'est précis. Je suis très précis. Ce jour, c'est des policiers du 3e arrondissement qui se sont permis d'envoyer des gaz lacrymogènes dans des familles sans aucune raison. Moi, en tant qu'homme de, en tant que Malien d'abord, moi je me suis mis devant eux, je leur ai demandé, mais vous envoyez des gaz pourquoi? On envoie des gaz lacrymogènes quand on se sent menacé. Mais comme ça, pour envoyer des gaz lacrymogènes, mais c'est ce qui s'est passé lors
de la... Et l'explication donnée était laquelle?
Ils m'ont dit de dégager. Ils m'ont dit de dégager. Comme c'est des forces de l'ordre, j'ai dit bon, c'est bon, mais je suis journaliste et j'aurai l'occasion de le dire. Ils l'ont fait et c'est ce qui s'est passé lors de la manifestation pro-Ratbaf. On dit que les policiers n'ont pas tiré. Mais il ne faut pas qu'on nous prenne pour des mangeurs de saucisses, là. Ce n'est pas possible. Les gens, quand il y a bavure, quand il y a erreur, il faut que l'État s'assume. Et c'est comme ça que ça va commencer, ça va dégénérer. S'ils n'ont pas parmi eux des policiers qui sont compétents ou professionnels, ben qu'ils dégagent, comme ils nous le disent. Mm-hmm. C'est ça.
Alors, Sankala, peut-être c'est mieux que cette affaire finisse vite, mais certainement aussi qu'il faut que la vérité soit établie, non?
Il faut que la vérité soit établie, c'est vrai. Mais comme dirait Paul, dans une marche, une manifestation, dans une marche, bon, chacun parle avec son intention. Maintenant, on ne sait pas, pour le moment, qui a tiré, c'est les policiers. Les manifestants, peut-être pour des règlements de compte, ou les frustrés comme l'autre, des guerriers quelque part. Mais quoi qu'il en soit, et pour ne pas faire la différence nette entre les pro-Rashbat et même les déguerpis, c'est la même masse. Mais Rashbat a trouvé une certaine aura auprès vraiment de cette population. C'est-à-dire que ses victimes, bon, c'est frustré, ainsi de suite. Ouais.
Une dernière précision, M. Fomba. Nous sommes tous des intellectuels ici autour de cette table. Et on sait que quand on accuse la police d'avoir tiré, il est très facile de le prouver. La balle qui a pénétré le corps de la victime, on peut l'enlever, on peut faire une autopsie, enlever cette balle et vérifier de quel calibre, de quelle arme elle vient. Il ne faut pas qu'on pense que au Mali ici, tout le monde n'a pas atteint...
Oui, mais Paul Bell, il n'est pas exclu qu'une enquête soit en cours et que nous, malheureusement, nous ne soyons pas au courant.
Malheureusement, pas du tout. Et mm-hmm. Vous savez, quand c'est ce genre d'affaire, tout le monde a intervenu. Là, le procureur a intervenu. Le DGA de la
police,
de la police a intervenu. C'est pour un souci de clarification ou pas. Mais si souci de clarification il y a, mais il faut qu'on nous dise ce qui s'est passé. Il faut qu'on nous dise qu'on n'est pas en Iran ou en Corée, là. Si les gens veulent informer, qu'ils informent bien. Puis s'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils viennent, on va leur donner la bonne manière, comment informer les gens. Ce n'est pas... On a vu qu'il y a eu un mort. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a su. Pourquoi ne pas faire l'autopsie et nous dire si la balle qui a tué ce jeune homme, si elle est d'un calibre, d'une calache de la police, d'un fusil de la police ou pas.
Alors, Boakar Pintar, peut-être que la balle est dans les camps des journalistes, puis peut-être qu'il faut aller à l'information, savoir s'il y a eu autopsie, savoir comment évolue l'enquête, si toutefois il y en a.
Bon, moi, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais je sais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, et puis voilà. C'est-à-dire que la personne, elle est morte, et puis... Vraiment, c'est fini. Hein? Il n'y a rien après.
Benjamin Sangala, vous pensez qu'il n'y a rien?
Peut-être non, parce que bon, c'est vrai qu'il y a un silence pour le moment. Mais attendons, peut-être que les auditeurs nous reviendront pour nous dire que bon, la suite de l'enquête, s'il y en a. Mm-hmm. Mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est vrai que c'est un silence.
Il
n'y
a pas d'enquête, il n'y a rien. Parce que le dossier est vide, il n'y a rien.
Oui. Bon, le dossier est vide, mais il y a eu un mort quand même.
Oui, mais mort.
Quand il y a eu de la violence, il y a eu un mort.
Mais le DG de la police a été clair. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il dit qu'aucun policier n'avait une arme.
Bon, c'est vrai.
Que lui-même, personnellement, il a retiré les armes. Ah, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête.
C'est quand même...
Il n'y a rien. C'est... Lui, déjà, il a conclu.
Ouais, mais il faut toujours avoir une enquête pour savoir au moins d'où provenait
le tir. Ce que moi, je vais dire par rapport à ça, ouais. Ça suffit. C'est-à-dire que lors des manifestations pacifiques de ce genre, c'est-à-dire qu'enregistrer des morts d'hommes, ça suffit vraiment. Ça suffit, on est plus, comme on l'a dit, on n'est plus en Corée. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas en Corée, on n'est pas...
En Iran.
Voilà, on n'est pas en Iran, on n'est pas au 19e siècle. Voilà. Alors. Nous, on est, c'est-à-dire que, une génération de la liberté, maintenant qu'on nous laisse manifester, qu'on laisse les gens manifester, c'est un droit. Voilà.
Apparemment, chacun a sa leçon à tirer dans cette affaire. On se retrouve pour la suite de cette émission dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Dernier volet de cette émission, l'Assemblée nationale a examiné cette semaine un projet de loi. Il s'agit du projet de loi qui est censé remplacer la loi électorale de 2006. Alors, les documents suscitent beaucoup de commentaires au niveau de la classe politique malienne. Alors, vous y êtes certainement intéressé. Que pourrait apporter la nouvelle loi si elle était adoptée, Paul Ben?
Bon, moi, je crois que... sur toute la longueur institutionnelle, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer, qu'on doit revoir, qu'on doit, ça dit, peut-être changer même. Et la loi électorale en fait partie. Les débats, ça c'est normal. La politique a horreur du vide, hein. La politique a horreur du vide, donc et à chaque fois, vous savez, quand il y a changement, il faut toujours qu'il y ait des pros, des contre. Mais je crois que, pour revenir à votre question, la loi électorale va changer beaucoup de choses sur le l'échiquier politique national. La façon de voter, la façon de voter, comment est-ce qu'on doit s'y prendre. Et même du côté, vous savez, chaque fois on a essayé d'appeler les gens au vote, c'est un droit, c'est un devoir citoyen, mais au fait, les gens ne savent pas très bien ce que c'est. Et je crois que j'ai échangé avec certains qui sont dans cette commission, ils me disent, ils m'ont parlé, ils ont mis l'accent sur la sensibilisation. Et je crois que c'est un très bon pan sur lequel on doit s'appuyer pour essayer un peu de changer nos habitudes politiques, surtout parce que le Malien, comme on le sait tous, nous faisons un peu la politique alimentaire. Chaque fois quand il y a des élections, il faut et aussi du côté de la justice, il faut mettre certaines choses pour essayer de mettre des garde-fous. C'est ce qui améliorera un peu cela. Je n'ai pas trop suivi la chose parce qu'elle est sur le stade embryonnaire.
Il y a certains aspects concrets sur lesquels nous allons revenir. À présent, nous allons écouter l'appréciation de Boubacar Paintao. Boubacar Paintao, ce projet de loi, comment le voyez-vous?
Bon, moi, ce projet de loi, je dis tout simplement, c'est une tentative de gouvernement d'exclure, je dirais, les candidats potentiels, potentiellement dangereux pour le président en 2018, parce que moi je ne vois pas l'intérêt de ça. Pourquoi exiger à ce que chaque candidature à l'élection présidentielle soit parrainée par 15 députés et 5 conseillers nationaux? Maintenant, alors que à l'Assemblée, nous, on a 147 députés. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de 10 candidats. On ne peut pas avoir plus de 10 candidats. Et probablement on aura 5 candidats au maximum.
On ne peut pas avoir plus de 10 candidats et tout le monde ne peut pas l'avoir.
Oui, mais non, l'élection...
au suffrage.
Bon, nous sommes en démocratie. Hein. C'est-à-dire, l'élection présidentielle, l'esprit de l'élection présidentielle, c'est quoi? C'est le contact, le rendez-vous d'un homme avec son peuple. C'est au peuple, c'est-à-dire qu'on doit respecter ce peuple-là. C'est au peuple de choisir le président de la République. On ne peut pas faire une présélection pour le peuple. Parce que si ça passe, c'est comme si c'est les députés qui vont faire une présélection pour le peuple. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal.
Vous pensez que c'est fait à dessein parce que oui, ceux qui sont à l'origine sont très majoritaires.
Oui, mais 15 députés. Je prends un exemple tout simple. En 2013, nous, on était là, on a participé. C'est-à-dire que c'était 5 députés.
les députés ont été achetés à 10 millions. Mmh. À 10 millions. Maintenant, si on lève la barre à 15 députés, c'est qu'il est sûr, il y a des candidats potentiels, peut-être qui iront à deuxième tour, au deuxième tour, et qui seront automatiquement éliminés. Alors que le choix revient au peuple. C'est au peuple de choisir son président. Pas l'Assemblée. On est dans un régime semi-présidentiel, pas parlementaire. Premier élément. Deuxième élément, quand les députés ont été élus en 2013, c'est-à-dire que leur mandat termine en 2018, des députés qui sont sur le pied de départ vont préconfigurer le mandat, le prochain mandat qui arrive. Parce que c'est eux qui vont choisir, certainement, qui vont faire une sélection. Voici, nous, en tant que députés, voici ce qu'on a choisi pour vous. Et parmi ces choix, vous allez choisir. Même si ce n'est pas le choix du peuple, on est obligé de choisir quelqu'un parmi ceux-ci.
Donc, il y a danger.
Donc, c'est comme si c'est les députés qui vont choisir des présidents pour nous. C'est pas... L'élection présidentielle, c'est un suffrage universel direct. C'est une violation pure et simple de la loi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Parce que quand tu leur poses la question, ils vont dire que non, c'est pour éviter les candidatures fantaisistes. Mais on a dit que les Maliens naissent libres et égaux devant la loi. C'est-à-dire qu'on est tous égaux. Maintenant, moi, je me crois capable, je sais que je peux partir, c'est-à-dire que je à la recherche
la quête du pouvoir.
Voilà, c'est-à-dire à la quête du pouvoir.
Si je vous
maintenant, qu'on me laisse
bien,
le choix de le faire.
Si je comprends bien, c'est comme s'il revenait au peuple de se dire telle candidature est farfelue, telle voilà. Pas, c'est cela.
Voilà. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de tout ça, de tout ce tarmandal? Maintenant, on peut demander à cette candidature et chercher 200 000, 50 000 signatures. Voilà. On peut le faire. Maintenant, on est citoyen pour la vie. Mais on n'est pas député pour la vie. Les députés ne peuvent pas choisir nous, notre futur président. Peut-être que certainement, ces députés ne seront même pas là pour le mandat prochain.
Nous allons à présent écouter Benjamin Sangala de Fraternité Africaine. Votre commentaire.
Vous savez, bon, moi, je résume la chose en une chose, en un seul point. C'est-à-dire que c'est une manière toujours de maintenir les mêmes têtes au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Si on va continuer vraiment sur cette loi, c'est vrai, il y a un certain nombre de modifications. Bon, je crois 23 dispositions, nouvelles dispositions ont été inscrites dans le nouveau code-là. Mais ces 23-là, on parle de 15 quotas. Et également, bon, pour s'y faire, ces 15-là, tous les candidats que nous avons, supposons les candidats de 2013, beaucoup ne reviendront pas parce que beaucoup de partis n'ont pas 15 députés à l'Assemblée nationale. On a peut-être que trois partis, le RPM, l'ADEMA et l'URD. Bon, et également les candidatures indépendantes aussi seront exclues en ce moment. Donc les gens, peut-être comme l'autre l'a dit, vont se vendre très cher aux enchères. Et également les députés auront choisi le président de la République avant que les citoyens ne soient prononcés. Nous sommes dans cette voile.
Alors, Paul Ben, il y a l'autre aspect qu'on a retenu dans ce document, c'est le fait quand même que la caution pour l'élection présidentielle passe de 10 millions à 35 millions de francs CFA. Certains estiment que c'est une façon de réserver la course aux riches, puisqu'après tout, au Mali, 35 millions, c'est un montant.
Ah oui, moi je crois que, vous savez, les gens aiment toujours répéter, bon, pas les gens, je veux dire, les politiciens aiment toujours répéter que nous sommes dans un pays pauvre, un pays pauvre, PPTE là, pauvre, très endetté. Mais quand on nous met la barre de la caution pour l'élection présidentielle à 35 millions, bah, peut-être que. On veut créer des petits narcotrafiquants qui vont venir bousculer un peu la donne. Mais sérieusement, c'est trop. C'est trop.
Mais quel peut être l'objectif visé à travers cela?
Ben franchement, il faut qu'on pose la question à ceux qui veulent initier cette chose-là. Mm-hmm. Moi, je crois que c'est pas parce qu'on a payé cher qu'on est bon président. Bien qu'on sera un bon président. On veut un travailleur. On veut quelqu'un qui travaille pour le développement du pays. La caution importe peu, mais elle ne doit pas être à 35 millions, franchement. On peut exclure, comme il l'a dit, le peuple doit exclure, le peuple doit devoir exclure les candidatures farfelues ou des gens qui ne sont pas bien pour le pays. Mais on ne doit pas passer par, par ce mécanisme-là. Ce n'est pas bien.
Bon, c'est ça.
Bon, ce que moi, je me rajoutais par rapport à la question des 35 millions, ben, on est dans un pays pauvre, ça c'est évident, on sait qu'on est dans un pays pauvre. Bon, on est habitué à mettre de l'argent avant tout.
Oui.
Alors que il y a beaucoup de choses.
D'aspects.
Voilà. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer dans le choix de celui qui va présider à la destinée du pays. C'est extrêmement important. Pas forcément que celui qui a plus de l'argent que nous tous est plus heureux que nous tous. Ça, c'est évident. Maintenant, 35 millions, c'est trop. Tout ça, c'est pour revenir. Hein. Quand, après plusieurs acrobaties, tu parviens à avoir les 35 millions, maintenant, le problème de député va se poser. Quand il faut payer chaque député 10 millions, les 15 députés, ça fait 150 millions. Maintenant, les conseillers nationaux, il ne faut même pas. Et puis, c'est des conseillers qui siègent au Haut Conseil des collectivités.
Est-ce qu'il faut craindre des dérapages à ce niveau?
Oui, mais évident. Parce qu'on ne peut pas choisir le président du peuple à la place du peuple. L'élection présidentielle, c'est une élection universelle. Suffrage universel, direct. Ça, c'est extrêmement important. C'est la Constitution qui le dit. Maintenant, pourquoi vouloir faire une certaine présélection pour le peuple? Ça, c'est dévié, c'est-à-dire que de régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, on va à un régime parlementaire. Non, maintenant, c'est les députés qui vont choisir les présidents. Bon, voilà ce que nous avons trouvé pour vous. Choisissez parmi ceux-ci. On est obligé de choisir. Même ne pas choisir en ce moment, ce serait un choix. C'est comme ça que je vois. Ça, c'est juste une mesure taillée sur mesure. C'est-à-dire que une loi taillée sur mesure pour exclure les potentiels candidats qui peuvent créer des problèmes au président. Point barre.
Non,
c'est pas la peine.
Bon, d'abord, moi je me dis, est-ce que la démarche, est-ce que l'opposition comme la majorité, est-ce qu'on a vraiment consulté la base pour vraiment arriver à cela? Parce que si vraiment l'opposition, on avait peut-être écouté l'opposition, ou si on avait même écouté la majorité, parce que ça n'arrive pas à certaines majorités. C'est vrai, forcément, bon, certains partis vont disparaître au détriment de l'autre. Également, bon, ça compromet également aussi et le tournant générationnel. Certainement. Et ça va aussi créer d'autres aspects que Paul Ben a souligné. Bon, on va trouver de l'argent, hein, malgré le coma. Les gens vont peut-être s'endetter, les gens vont peut-être lier même. Peut-être que combine avec les diables, on ne sait pas. Mais il faut être candidat. 35 millions, 150 millions, même plus. Ouais. Mais l'argent ne sera pas le problème. Également, le second point qu'il faut souligner, on ne vote pas seulement pour l'argent. On vote aussi pour la moralité du candidat.
Mais quelle est la portée de ce geste lorsqu'on demande que la caution passe de 10 millions à 35? Quelle portée cela?
Excusez-moi, c'est ça. Exactement, c'est ce que je me pose comme question. Et vous avez parlé de dérives, on assistera aux dérives. Ça, ce n'est caché à personne. Hein. Les députés qui viennent à l'Assemblée nationale, j'appelle ça, le retour à l'investissement. Vous investissez pour après gagner. Les députés qui viennent à l'Assemblée, pourquoi est-ce qu'on se plaint que bon, les députés sont là, chaque loi qui vient, elle passe comme un couteau dans un beurre, dans le beurre. C'est parce que, mais ils ont investi des sommes colossales pour devenir députés. Donc, en retour, ils doivent gagner, ils doivent payer, ils doivent rembourser les dettes qu'ils ont contractées. Ce monsieur qui va venir, qui va contracter 35 millions à chaque opérateur économique avec la promesse que si je deviens président de la République, qu'est-ce que vous croyez après? Mais c'est des marchés. Il va passer des marchés à ces gens.
30 secondes.
Il faut mettre un autre aspect. Dès que d'habitude, le code électoral est discuté autour d'une concertation.
Très rapidement,
le ministre et les partis politiques. On appelle conférence de concertation. Mais malheureusement,
C'est-à-dire qu'on a convoqué les partis politiques une première fois, une deuxième fois.
Donc, terminé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu trois invités dans ce studio. Les trois invités étaient Paul Ben, journaliste indépendant, Benjamin Sangala, qui est de Fraternité africaine, Boubacar Paintao de l'Indépendant. À la mise en onde, il y avait Salimo Diouara, à la régie vidéo Nuhundjiré, à la réalisation Ousmane Diadjetou, représentation Seydou Fomba. On se retrouve dans une semaine pour un autre forum. Bon week-end à toutes et à tous.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Demande.
Chenne Berry. Siki Kafoba.